Bonjour à tous. C'est un peu fort. Ravi de vous accueillir ici. Nous allons parler de Silver Economy, des défis à relever pour la Silver Economy, pour atteindre tout son potentiel économique. Alors, si vous deviez rater des moments, sachez que cette conférence est enregistrée en audio. Vous pourrez la réécouter sur le site du salon dans les prochaines semaines. Et puis, vous pouvez aussi aller tweeter, si le cœur vous en dit, avec le hashtag SilverEco, et puis aller consulter la page Facebook. Voilà pour les détails pratiques. Sur cette estrade devant vous, Sébastien Poitevin, qui est le tout nouveau directeur général de France SilverEco, qui a été au cabinet de Thierry Mandon, secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, en charge de la prospective, qui sort de l'école polytechnique et qui vient de recevoir la mission de rédiger la feuille de route de la Silver Economy, une mission assez urgente puisqu'il va devoir rendre sa copie à la fin du mois de décembre, si j'ai bien compris. Début décembre, donc ça va aller très très vite. Voilà, très vite. À vos côtés, Olivier Vallée, qui est directeur des marchés de l'assistance à l'autonomie chez Legrand, l'électricien Legrand, qui est également administrateur de donc, cette association France Silver Eco qui rassemble tous les acteurs du secteur et qui est également dans le comité de filière Silver Eco. À côté de vous, Anne Gauthier, qui est présidente de l'association nationale Présence Verte, qui est une association qui regroupe 33 autres associations de téléassistance à domicile et qui enregistre 110 000 abonnés partout en France. Ensuite, nous avons ici Pascal Brunelet, qui est président de la Silver Valley, qui est le cluster de la Silver Economy en Ile-de-France, qui a pour mission de développer l'innovation autour de l'économie des seniors, de faire travailler ensemble les start-up, les grands groupes, d'activer les financements également. Et enfin, Vincent Touzé, qui est chercheur à Sciences Po à l'OFCE, et qui est membre du programme de recherche Dynamique du vieillir à l'université Sorbonne Paris-Cité. Voilà. Nous avons devant nous une heure pour parler. Il n'y aura pas de questions-réponses à l'issue de ce débat, mais il promet déjà d'être dense. Alors nous allons peut-être commencer par quelques données de cadrage pour vous donner une idée de quoi on parle quand on parle de Silver Economy. Vincent Touzé, c'est peut-être à vous de nous donner ces indications. Quand est-ce qu'on devient un senior? Et la réponse à cette question est multiple et loin d'être évidente.
Alors oui, juste pour commencer, je ne sais pas si on m'entend.
Est-ce qu'on entend bien? Voilà.
Donc, oui, juste pour commencer, donc, nos sociétés développées donc, font face à un choc de vieillissement qui résulte de deux phénomènes. D'un côté, il y a un vieillissement, ce qu'on appelle par le bas, une baisse de la fécondité qui fait qu'il y a un peu moins d'enfants que dans le passé, et en même temps, surtout un vieillissement par le haut qui se traduit par en fait une baisse de la mortalité aux âges élevés et donc finalement une croissance de la population âgée. Alors, donc ce qu'on appelle un choc de vieillissement. Après, qu'est-ce qu'on peut se poser, c'est quelles sont les conséquences finalement, en quoi atteindre un âge élevé finalement peut affecter le fonctionnement de nos économies. Il y a plusieurs aspects, et c'est là aussi la question du critère de qu'est-ce qui va définir qu'une personne va être senior. Bon, ça peut dépendre de différents aspects. Ça peut dépendre déjà du contexte professionnel. C'est à partir de quel âge, dans mon activité, les ressources humaines vont me considérer comme senior et considérer que je ne suis pas nécessairement rentable en termes d'investissement capital humain. Ça peut être aussi, d'un point de vue professionnel, l'âge à partir duquel ça va être plus difficile de retrouver un travail si je suis au chômage. Et surtout, une grande rupture au niveau professionnel, ça va être l'entrée dans l'inactivité, enfin l'inactivité au sens professionnel du terme, c'est-à-dire l'âge de la retraite. Après, l'autre grande rupture qui peut traduire des aspects de seniorité, c'est les liens entre comportement et âge. Comportement et âge, la première dimension, c'est éventuellement en tant que consommateur, qu'est-ce qui fait qu'en fonction de mon âge, je vais avoir des préférences différentes en termes de consommation. Après, aussi là, je peux modifier aussi mon état de santé. Et c'est là aussi on peut avoir de conséquences. Une conséquence en termes de prévention, c'est-à-dire j'anticipe que je vais un jour peut-être tomber dans une situation d'aggravation de mon état de santé. Et donc je vais l'anticiper. Donc c'est des comportements de consommation en termes de prévention. Et bien évidemment, aussi grande rupture liée à l'âge en termes d'état de santé, et bien ça va être l'entrée en dépendance.
Est-ce que vous avez une idée du chiffre de la population, de son accroissement? Est-ce qu'on peut avoir quelques petites données chiffrées pour savoir?
Approximativement, en nombre de personnes dépendantes en France, au sens administratif du terme, puisqu'en fait, il y a une définition administrative, grosso modo, c'est les personnes qui peuvent prétendre à bénéficier de l'APA, l'allocation personnalisée autonomie, on est autour de 1,2 million de personnes, et quand on regarde un peu les prospectives publiques dans le domaine, on annonce une hausse à peu près de 1,5% par an, mais 1,5% par an sur 40-50 ans, on est au niveau du doublement de la population. Voilà.
Sébastien Poitevin, comme on le voit, devenir un senior, ça recouvre des réalités très très différentes selon le moment de sa senioritude, si j'ose dire. Vous venez de recevoir la mission de rédiger cette feuille de route, alors il va falloir que vous trouviez des axes de travail. Vous m'avez dit, avant qu'on arrive ici, qu'il y avait déjà beaucoup de travaux qui avaient été faits sur le vieillissement de la population, sur l'adaptation du logement, etc. Alors, sur quoi est-ce que vous allez mettre l'accent, sachant que j'ai cru comprendre que ça devenait un sujet politique sensible?
Alors, on va parler des défis, puisque, en gros, ce sont
le
ces
thème
défis.
De la conférence.
Voilà, c'est bien le thème. Nous, on a défini trois défis. Le premier de ces défis, il est culturel. Parce qu'on le disait en préparant ce rendez-vous, notre pays a du mal à exposer la question réelle des seniors. Comme cela vient d'être expliqué, c'est une réalité très complexe. Et en fait, quand on parle des seniors, on parle d'un temps de vie extrêmement long. Mm-hmm. On est senior de plus en plus tôt dans les organisations, là où on travaille, alors que le temps de travail a plutôt tendance à s'allonger. Donc cette problématique va être de plus en plus longue à gérer. On est senior en inactivité, et encore, l'inactivité, ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que des gens qui ont des réseaux importants vont pouvoir continuer à avoir une activité associative, vont pouvoir éventuellement garder une petite activité professionnelle annexe. D'autres seront complètement passifs, et avec un début d'isolement social qu'il va falloir traiter. Il y a l'âge de la fragilité, où effectivement, c'est le moment des grandes questions. Quelles décisions dois-je prendre pour demain faire en sorte que l'éventuelle dépendance puisse être bien anticipée, bien gérée, et il y a effectivement la question de la dépendance. Tout ça, cette complexité, fait que dans la société, on a du mal à poser un regard complet sur cette période de la vie. Donc, le premier de ces défis, il est culturel, avec une conséquence, c'est le deuxième défi, c'est une question politique et de portage politique. Vous savez, aujourd'hui, c'est très simple, la silver economy, nous, on travaille avec la DGE, que je salue, j'ai vu que Aymeric était dans la salle.
Pardon, vous pouvez peut-être préciser la DGE.
La DGE, la Direction Générale d'Entreprise, qui a une vision tout à fait centrée sur l'économie. On va travailler aussi avec le ministère de la Solidarité et de la Santé, qui aura une vision différente. On va travailler sur le tourisme, on va travailler sur la mobilité, on va travailler sur le logement, bref. On voit très bien que politiquement, c'est quelque chose d'extrêmement transversal, avec une difficulté. Il n'y a pas une ministre ou un ministre de la silver economy. Donc, il faut réussir à avancer. Donc, il y a ce sujet-là. Troisième défi, il est très clair, c'est un défi budgétaire, parce que effectivement, la question d'une population qui vieillit, une population qui vieillit, et notamment cette génération des baby-boomers souhaite rester
chez elle.
Ça veut donc dire comment on fait pour adapter. En même temps, pour ceux qui vont devoir aller en EHPAD, quand on connaît le prix d'entrée des EHPAD, comment fait-on pour que demain, tout le monde puisse avoir accès à l'EHPAD, etc., etc. Ces trois défis, voilà, ce sont ces trois défis sur lesquels il va falloir qu'on arrive à apporter très rapidement des réponses. Sinon, effectivement, cette opportunité qu'est la place des seniors dans notre société deviendra, pour le coup, une difficulté et une charge.
Oui. Vous considérez vraiment que c'est une opportunité économique, mais pas seulement?
Nous vivons une mutation profonde de la société, des accélérations de cycles, une révolution technoscientifique. On nous explique, à juste titre, que demain, la machine va remplacer en partie l'homme dans un certain nombre des tâches qui lui sont aujourd'hui dévolues. Qu'est-ce qui va rester alors? Les liens humains et l'expérience. Qui aujourd'hui est détenteur de l'expérience? Dans une organisation, quand vous avez quelqu'un qui a connu justement cette accélération des cycles, qui va demain pouvoir transmettre cette expérience? Qui va demain pouvoir permettre à ceux qui auront à prendre des décisions plus tard de comprendre ce mécanisme? Ce sont les personnes d'expérience, ce sont les seniors. Donc la place des seniors dans la société, elle est essentielle. C'est ça, cette opportunité. Elle n'est pas simplement économique, même s'il est évidemment économique. Mais c'est beaucoup plus large que cela.
Elle est économique, c'est le secrétariat d'État à l'économie qui vous a confié votre feuille de route. On est tous ici à savoir que le budget de l'État n'est pas extensible et qu'il est plutôt en réduction. Ça veut dire qu'il va falloir que d'autres acteurs s'intéressent à cette question des seniors. Olivier Vallée, peut-être que vous pouvez nous donner votre point de vue. Alors, je vous rappelle que vous êtes chez Legrand, qui est une société qui est assez pionnière dans l'adaptation, la création de produits qui permettent d'adapter le domicile, de favoriser le fait que les gens restent chez eux en sécurité. Selon vous, quel est le rôle de l'entreprise privée? Alors, vous avez pris ça en main, puisque vous êtes également administrateur de France Silver Eco, que vous êtes dans le comité de filière Silver Economy depuis un certain nombre d'années. Alors, qu'est-ce que l'univers privé peut faire pour apporter, disons, sa coopération à ce grand sujet de société?
On a combien de temps?
Bah écoutez, allez-y, après je vous coupe.
Non, en fait, fini. Nous, sur le monde de l'entreprise et des industriels, on a une vision très pragmatique du sujet. C'est vrai que nous, on voit ce vieillissement comme une opportunité, comme un marché, avec des nouveaux besoins qui vont émerger, qu'on va devoir satisfaire avec des solutions. Bon, c'est vrai que ça fait des années qu'on dit que la silver economy, ça va être un peu l'Eldorado pour les industriels et les start-up.
Un Eldorado qu'on ne voit pas beaucoup venir pour l'instant.
Voilà, le marché n'est pas forcément encore là aujourd'hui. Alors, ça fait sourire ma voisine parce qu'on avait une discussion.
Elle nous expliquera pourquoi juste après.
Voilà, bah, je vous laisserai expliquer. Voilà, il y a une certaine défiance aujourd'hui entre la sphère médico-sociale et les services et les industriels. Mais voilà, donc nous, juste pour refaire un petit point d'histoire et savoir comment on est arrivé dans ce sujet-là, parce que ça explique aussi ce qu'on veut y faire. On a notre siège à Limoges, donc au centre de la France, avec une zone rurale très âgée, hein, qui préfigure un peu l'Europe dans 20-30 ans, donc un beau territoire d'expérimentation. Et il y a une dizaine d'années, les élus de la Creuse et de la Corrèze nous ont sollicité pour voir en quoi des solutions technologiques pourraient venir compléter le dispositif d'aide humaine qui était déjà en place dans les domiciles, et notamment pouvoir combler les vides de présence de l'aide humaine. Parce que l'aide humaine, c'est 1 heure, 2 heures par jour, parfois un passage ou deux par semaine, et le reste du temps, la personne est seule, devant ses problèmes, devant ses besoins. Et là, la technologie qu'on peut installer dans le domicile peut permettre à la fois de lui apporter de la sécurité dans cette période où elle est seule.
Vous pourriez peut-être nous donner quelques exemples. Ouais. Comment est-ce qu'on peut adapter un domicile? Alors, vos solutions, celles de vos concurrents, mais...
Oui, non, mais on va rester générique sur les marques. Je vais pas...
Non, mais ce sont des choses assez simples.
Il y a deux pans assez simples. Il y a quelque chose qui va plutôt toucher l'adaptation du bâti. C'est-à-dire, je fais en sorte que mon logement, je puisse y accéder facilement, je puisse m'y déplacer facilement, en sécurité, je puisse y accomplir les actes du quotidien facilement. Si on prend par exemple l'exemple du parc social en France, il y a 4,5 millions de logements sociaux, vous avez 90% du parc qui est équipé avec des baignoires, parce que dans les années 60-70, c'était le top du luxe, et les bailleurs sociaux à l'époque voulaient amener la modernité, ce qui se faisait de mieux, sauf qu'on a mis des baignoires partout. Et qu'aujourd'hui, on sait que arriver, sans même parler de dépendance, mais arriver à 75-80 ans, avec encore des belles années d'espérance de vie devant soi dans un logement avec une baignoire, ça pose des problèmes. Donc ça, c'est plutôt l'adaptation du bâti, faire des ouvertures de portes à 90 au lieu de 70, ça permet de circuler plus facilement, et le jour où on a un déambulateur ou un fauteuil, ben on va pouvoir circuler dans son logement, alors que des portes à 70 vont poser problème. Ça, c'est le volet bâti. Et après, il y a toutes les aides techniques qu'on va pouvoir rajouter, ou technologiques. Là, on est plus dans le monde du connecté, surveillance technique du logement, permettre à la personne de pouvoir alerter en cas de problème, pouvoir identifier qu'elle a chuté, qu'elle a fait un malaise, pouvoir surveiller que la température de son logement est correcte, qu'il n'y a pas de monoxyde de carbone dedans, etc., etc. Tout ça, ça relève du logement connecté. Donc, c'est des équipements qu'on peut adapté au fil du temps, petit à petit, et qu'on va connecter après avec des opérateurs de services, puisque la finalité, ce n'est pas que la techno règle les problèmes, c'est simplement qu'elle fasse le lien entre le domicile et des acteurs en mesure de réagir. Voilà. Et c'est là où on a ces deux aspects de la, de nos interventions. D'un côté, plutôt le domaine du bâti et du bâtiment et des travaux d'adaptation, et de l'autre côté, plutôt les technologies.
Avant de donner la parole à Anne Gauthier, je vais vous la donner à vous, Pascal Brunelet. Vous m'avez donné un chiffre très intéressant tout à l'heure sur les investissements qu'on peut faire dans son logement et leurs conséquences sur la suite de la vie.
Oui, il y a des données qui mettent en évidence le fait qu'avec un investissement qui se situe entre 6 et 8 000 euros par logement, on retarde l'entrée en institution de 3 ans. En reprenant ce que vient de dire Olivier, c'est-à-dire en remplaçant des baignoires par des douches à l'italienne, en élargissant les portes, en ayant de la technologie qui permet de ne pas se pencher par la fenêtre pour fermer ses volets ni les ouvrir. Enfin, il y a tout un ensemble de choses, de ne pas allumer la lumière le soir ou la nuit quand on veut aller aux toilettes et qu'on doit y aller, etc. etc. Donc c'est vraiment effectivement des données très concrètes qui permettent de mettre en évidence qu'il y a des solutions. Mais je crois que, puisque vous m'avez donné la parole, je la garde un tout petit peu. Je crois que les défis auxquels la Silver Economy doit faire face, c'est, je dirais qu'il y en a deux. Il y a un défi, bien entendu, de financement et un défi de positionnement marketing. Je crois que les acteurs de la Silver Economy, quels qu'ils soient, que ce soit des petites start-up ou des grosses entreprises internationales du CAC 40, comme... Le Grand est au CAC 40 ? Le Grand est au CAC 40. Comme
Il y a deux entreprises du CAC 40 qui ont le siège en province. Il y a Michelin à Clermont et Le Grand.
Et Le Grand.
Les autres sont tous à Paris.
Et des entreprises internationales. Je pense notamment à Microsoft, qui est un des administrateurs de notre cluster. Il faut voir le marché de la Silver Economy comme étant un marché non pas monolithique, mais protéiforme. C'est-à-dire que le retraité, pour ne plus parler de senior, mais parlons de retraité, parce qu'on va dire que c'est peut-être à partir de ce moment-là que la Silver Economy intervient, le retraité, il n'est pas, pas unique. Alors, il y a différentes études, analyses qui ont scindé trois grandes typologies de seniors retraités. Il y a le senior retraité qui est en pleine forme, c'est 80% des seniors retraités, et c'est grosso modo entre 60 et 75 ans. Il y a le senior retraité qui est en besoin de réassurance, qui est en début de perte d'autonomie, c'est 75, 80, 85, c'est des chiffres qui sont très, très variables. Ça, c'est 12%, et les 8% restants, c'est les seniors très dépendants, les retraités très dépendants en perte d'autonomie. Il est évident qu'un des sujets que nous traitons au quotidien chez Silver Valley, c'est des entreprises qui viennent nous voir en disant « voilà, j'ai une solution miracle et je vais pouvoir adresser l'ensemble du marché des retraités », ce qui est une erreur fondamentale. Fondamentale. Les besoins de quelqu'un de 65 ans vont être des besoins extrêmement transverses, comme le disait M. Potvin tout à l'heure. Ça touche le loisir, ça touche la grande consommation. C'est exactement les mêmes besoins que des gens actifs, sauf qu'il y a peut-être une petite adaptation à mettre en œuvre. Et les produits, services que l'on va proposer à ces gens-là n'ont rien à voir avec ceux qu'on va proposer aux 10% de ceux qui sont en début de perte d'autonomie, et encore 12, pardon, en début de perte d'autonomie, et encore moins les 8 qui sont en totale dépendance.
Oui, il faut comprendre qu'il y a des marchés différents. Anne Gauthier, quand on dit marché de la Silver Economy, j'ai cru comprendre que ça vous hérissait un peu. Alors, pour rappeler, vous êtes présidente de l'association Présence Verte, pardon. Vous fédérez un réseau d'associations qui a pour but de faire de la télésurveillance, de la téléassistance chez 110 000 personnes dans toute la France. Alors, c'est un réseau qui a une philosophie un peu particulière puisque ça repose sur les réseaux de solidarité. Expliquez-nous comment ça fonctionne, comme ça on comprendra très bien.
Voilà, je vais plutôt reprendre l'historique, ça va être beaucoup plus simple. Effectivement, Présence Verte, c'est le leader de la téléassistance en France. Il est né il y a 30 ans, ce réseau de téléassistance, sur un constat assez simple, puisque à l'origine, la Mutualité Sociale Agricole, qui est donc l'organisme de protection sociale du monde agricole, avec évidemment des personnes vieillissantes, sans doute plus nombreuses d'ailleurs encore que dans le reste de la population, donc très concernées, et avec en plus une problématique d'isolement, puisque dans le monde rural, eh bien, qui dit rural dit évidemment dispersé sur le territoire.
Et de moyens
en plus à ajouter à cette problématique. Donc, bien évidemment, la question s'était posée de comment faire avec un public qui a peu de moyens et qui donc peut difficilement se tourner rapidement vers des structures d'accueil de personnes âgées. Là, du coup, on est plutôt vers la personne âgée, déjà un peu plus âgée, enfin, dans la catégorie vers 80 ans, j'ai envie de dire, même si après, au fil du temps, effectivement, la téléassistance évolue. C'est sans doute là où je trouverais un point de relais avec la Silver Economy. Mais ce service s'est mis au service des personnes qui étaient isolées, dépendantes, fragilisées. On peut être fragilisé par un accident vasculaire cérébral, et on n'est pas forcément âgé d'ailleurs. C'est pour ça aussi que ça répond à des personnes fragiles qui peuvent avoir un certain handicap, mais qui peuvent encore être autonomes, plus dépendantes, et avoir pas les moyens suffisants. Et du coup, la téléassistance permet à la fois d'assurer un lien, de rassurer, puisqu'il y a le fonctionnement avec une centrale d'écoute avec lequel, si vous déclenchez via un bouton, alors soit détecteur de chute ou soit un bouton poussoir, vous allez pouvoir mettre, vous allez être mis en relais, en connexion avec une centrale d'écoute qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là, à partir de ce moment-là, l'opérateur ou l'opératrice va prendre en charge l'appel. Et pour ce qui est de Présence Verte, nous fonctionnons avec un réseau de solidarité. Donc nous avons en lien 2 à 3 personnes que l'on va pouvoir contacter parce qu'il n'y a pas forcément nécessité de faire appel à des services d'urgence type pompier ou SAMU parce que la personne peut simplement avoir trébuché dans sa maison mais sans avoir le célébrissime col du fémur cassé. Je dis ça trop célébrissime parce que souvent, les personnes s'équipent en téléassistance une fois qu'elles ont eu le col du fémur cassé.
C'est un
peu dommage. Mais voilà. Et faire des quelques équipements d'aménagement. Si je veux vous faire sourire, c'est vrai que le chemin lumineux, c'est quelque chose d'utile dans les maisons parce que visiblement, je n'ai plus le chiffre en tête, mais le nombre de personnes qui se lèvent la nuit pour aller aux toilettes sans mettre l'éclairage. Alors, quand on est très valide, ça se passe bien, mais quand on vieillit, c'est pas du tout une bonne idée. Et du coup, il vaut mieux être un minimum équipé dans sa maison.
Olivier Vallée, vous m'avez parlé des chuteurs de nuit quand on a préparé cette conférence.
Oui.
Les chuteurs de nuit, voilà.
C'est les mêmes.
Les chuteurs nocturnes.
Chuteurs nocturnes.
Alors, en fait, il y a des études. Alors, c'est vrai que quand on parle du logement et des risques du logement, si on veut que la vie se prolonge au domicile, il faut faire en sorte de gommer tout ce qui fait qu'à un moment, on doit abandonner son domicile. Voilà, la première cause qui fait qu'on ne peut plus vivre chez soi et qu'on part en établissement, c'est souvent lié à un accident qui se produit. Et c'est soit l'accident lui-même ou les conséquences de l'accident avec une station au sol prolongée, etc., qui vont faire qu'on ne pourra pas revenir à domicile. Quand on parlait de la chute, pour expliquer les chuteurs nocturnes, on a eu des études. Bon, la chute, c'est un sujet, c'est 10 000 décès par an, c'est 450 000 hospitalisations, donc c'est un enjeu majeur.
Social énorme.
Ça tue 3 fois plus que les accidents de la route, quand même. Donc, il y a eu beaucoup d'études scientifiques faites sur les causes des chutes, qui sont multifactorielles, qui sont très complexes, mais il a été identifié quand même des profils de chuteurs. Et dans cela, vous avez des chuteurs nocturnes, qui sont des gens qui ne chutent pas dans la journée, qui chutent toujours la nuit, tout simplement parce que quand vous vous levez rapidement pour aller aux toilettes, qu'en plus vous avez un traitement pour le sommeil, etc., si vous n'avez pas la vision, si vous n'avez pas l'organe de la vue, vous avez beaucoup plus de mal à stabiliser votre équilibre puisque vous avez besoin de faire des repères de verticalité, etc. Et du coup, le simple fait d'automatiser un éclairage permet de faciliter cette prise de verticalité, cette stabilité dans l'équilibre. Voilà, c'est pas fait pour... Il y a une mauvaise compréhension aujourd'hui du sujet. On dit souvent le chemin lumineux. Alors, on pense à des...
Comme dans les avions.
À un balisage au sol, mais ça fout plutôt les gens par terre que de les garder debout.
Oui.
Il n'y a qu'à monter les marches de l'escalier au cinéma avec les lumières dedans pour qu'on se bute dedans. Non, c'est un parcours lumineux. On éclaire, on amène de la luminosité. On essaye de recréer une lumière, alors qui n'est pas celle du jour, parce qu'elle est un peu violente, mais suffisante pour qu'on voit la verticalité, on voit les cloisons, on voit le mobilier. Ça permet de caler son équilibre et de rester debout. Voilà. Si vous levez d'un coup sec dans le noir et que vous n'avez pas la vue, vous risquez de tanguer. Alors, si vous retombez du côté du lit, c'est pas trop grave. Si vous tombez de l'autre côté, c'est mauvais. Et beaucoup de chutes se produisent dans le premier mètre ou les 2 premiers mètres à la sortie du lit. Voilà.
en creux, derrière tout ce que vous dites l'un et l'autre, il y a le coût pour la collectivité aussi du fait d'une mauvaise prise en charge de choses finalement assez simples à régler avec des moyens assez réduits.
Alors c'est vrai qu'avec des moyens somme toute assez raisonnables en termes de pécuniaire, évidemment on peut rester à domicile plus longtemps, et ce qui génère bien évidemment une économie pour la collectivité, puisque lorsque l'on tombe dans la dépendance avec un classement GIRCAP, mais je ne vais pas rentrer trop dans la technique, et que l'on est vraiment très dépendant effectivement, et que l'entrée en établissement s'avère presque indispensable, il vaut mieux au préalable avoir mis un certain nombre d'éléments techniques qui vous permettent de rester plus longtemps à votre domicile, et la téléassistance est un des moyens. Et non seulement c'est un des moyens, mais en plus, effectivement, ça a aussi un moyen d'économie pour la collectivité, puisque nous fonctionnons avec un réseau de solidarité qui va plutôt, lui, se déplacer à la place des services de secours, pompiers ou SAMU, qui ont un coût pour la collectivité. Bien évidemment, si la personne nécessite les secours type SAMU ou pompiers parce qu'il y a besoin d'une hospitalisation, bien sûr, cette personne, les soins, les secours seront alertés. Mais dans un premier temps, s'il n'y a pas de caractère d'urgence médicale, ce sera le réseau de solidarité qui interviendra au domicile de la personne âgée. Et en plus, on a joué sur le lien social au passage, et ce qui est quand même un des facteurs également de fragilité et d'isolement de nos personnes âgées.
Dans un état qui a les poches vides, ça peut être assez intéressant d'avoir ce genre de solution. Combien est-ce que ça coûte, pour nous donner une petite idée, d'être assisté comme ça par son réseau à domicile ?
Alors pour un abonnement en téléassistance, on va dire que le tarif est autour de 25 € par mois, sachant que si l'on est imposable, comme c'est un service à la personne, il y a évidemment une partie de crédit d'impôt. Voilà. Par contre, là où je voulais faire le lien avec la Silver Economy, parce que la Silver Economy ne mérite pas, ce n'est pas ça le propos, mais c'est que la technologie ne peut pas répondre à tout. Et que, en fait, au fil du temps, comme nous allons avoir des personnes âgées qui vont avoir été de plus en plus connectés tout au long de leur vie, parce qu'évidemment, les personnes âgées de demain ne sont plus les mêmes profils que celles d'hier, et elles ont vécu avec des technologies, et bien évidemment, il y a besoin de faire évoluer. Les demandes ne sont pas tout à fait les mêmes. Pour autant, après, on est confronté à la réalité du vieillissement du corps. Alors, on peut avoir des éléments pour des seniors qui sont très actifs, de téléassistance qui permettent, en restant très actifs, en faisant de la randonnée, en allant aux champignons ou autre, d'avoir des moyens de pouvoir déclencher un lien avec la centrale d'écoute via des smartphones équipés, adaptés à ce type d'exercice. Mais là, pour le coup, donc c'est une technologie développée. Par contre, quand on vieillit et que l'on arrive avec, malheureusement, un petit peu de tremblement ou le corps vieillissant, on a moins de dextérité, eh bien, on est obligé de passer sur des matériels, je vais dire, de technologies qui ne sont plus tactiles, mais par contre, plutôt des poussoirs, parce que sinon, eh bien, c'est une catastrophe, et du coup, ça génère plus une perte de confiance de la personne âgée. Faites l'essai si dans votre entourage, vous avez des personnes âgées qui ont un petit peu de tremblement, mettez-leur un smartphone comme téléphone, et vous verrez comme ça peut les paniquer, en fait, plutôt que d'avoir un téléphone à touche. Donc je pense qu'il y a réellement de la recherche à faire, et c'est sans doute le lien que je ferai avec la Silver Economy pour l'évolution des nouvelles technologies de demain.
Puisqu'on parle de recherche, d'innovation, Pascal Brunelet, vous allez pouvoir nous apporter votre éclairage. On s'est dit tout à l'heure que le meilleur service à apporter aux personnes âgées en dépendance, c'est celui qu'elles utilisent.
J'ai la solution pour vous.
C'est parfait.
C'est ce que vous dites est extrêmement intéressant. Parce qu'il y a beaucoup trop de solutions qui ne sont pas adaptées à l'usage. C'est notre combat quotidien chez Silver Valley, c'est de faire en sorte que les innovations que proposent nos adhérents soient des innovations en phase avec l'usage qu'en feront les seniors. Vous parliez du smartphone qui, effectivement, est de plus en plus développé, mais ce n'est pas la solution optimale, parce que quand vient le tremblement, quand vient les problèmes de praxie, etc., etc., il y a d'autres solutions qui vont permettre, au travers de capteurs, alors on parle d'objets connectés, on parle de capteurs dans le domicile, vont permettre, sans même que le senior n'ait besoin de les activer, D'avoir des informations sur sa sécurité, sur la sécurité de son environnement. Est-ce qu'il a bien fermé le gaz? Est-ce que les portes sont bien fermées? Est-ce qu'il n'a pas chuté? Est-ce qu'il n'a pas fugué? Tout ça existe aujourd'hui. Et permet justement, moi je suis totalement, je cherche mon terme, je suis absolument convaincu que la technologie bien pensée est la seule solution qui permettra de résoudre le problème financier d'accès et de maintien à domicile. Pourquoi ? Parce que avoir une, on le connaît tous dans notre entourage, il y a des gens qui ont un degré de dépendance très élevée, qui souhaitent rester à domicile, et c'est une vraie petite PME à mettre en œuvre pour gérer l'alternance nuit, jour, etc. Je pense intimement qu'au travers des solutions qui sont en cours d'élaboration, qui tiennent compte de l'usage, on va pouvoir développer des technologies qui vont permettre aux gens de rester chez eux plus longtemps possible, sans que ça leur coûte très cher, et sûrement beaucoup moins cher que ça ne coûte aujourd'hui. Et c'est là où la technologie intervient en tant qu'aide à des problématiques, aussi bien pour les personnes âgées que pour leurs aidants, qu'ils soient familiaux ou qu'ils soient professionnels. Ces béquilles technologiques qui vont permettre aux aidants professionnels de se recentrer sur leur vrai métier, qui est la nuit de ne pas faire la ronde dans les EHPAD pour voir si les gens sont tombés, mais d'avoir une solution efficace qui va leur dire attention, chambre 12, madame X est tombée. Et ça leur permet de se recentrer sur les vraies missions de soignants qui sont d'accompagner les angoisses nocturnes, etc., plutôt que de faire des rondes dans les établissements. Donc, pour être synthétique, la technologie, et il y a des solutions aujourd'hui qui existent, qui répondent à ces difficultés liées à l'utilisation d'un certain nombre de solutions lorsque l'âge vient.
Ah mais bien sûr, mais on les développe hein, d'ailleurs. Hein, chez Présence Verte, il n'y a pas de problème, parce qu'au fil du temps, justement, on a développé des outils, des matériels adaptés à chaque âge et à la demande aussi que peuvent avoir les personnes, puisque bien sûr, il y a aussi des éléments un peu plus interactifs et il faut s'adapter à la demande de nos abonnés, pour autant tout en gardant à l'esprit ce lien social et ce service et en restant avec un niveau de prix qui reste abordable, puisque je rappelle, on a quand même un certain nombre de retraités qui ont un niveau de ressources qui est quand même assez minimal. Et donc la technologie, c'est bien, mais souvent ça a un coût un peu élevé malgré tout, et qu'il y a besoin de travailler sur ce champ-là.
Vincent Touzé, votre regard de chercheur justement sur ces contraintes économiques et ces nécessités de financement.
Alors c'est vrai que on comprend bien que les défis technologiques sont importants, et puis surtout la capacité à adopter ces technologies, hein, une question de technophobie, de caractère trop intrusif de certaines technologies. Mais surtout c'est vrai que ça pose aussi notre aspect, c'est comment on va financer tout ça. Alors il faut savoir aujourd'hui, hein, quand on regarde au niveau national, les dépenses de dépendance, ça représente à peu près 1,5% du PIB. On a à peu près un peu plus d'un million de personnes dépendantes, hein, au sens de administratif, hein, donc qui sont entre les GR1 et les GR4. Et à peu près, c'est 1,5% du PIB. La dépense publique qui va prendre en charge ces dépenses dépendance, ça représente à peu près 75% de ces 1,5%. On nous annonce à peu près, pour les 40, à un horizon de 40 ans, un quasi-doublement de nombre de personnes dépendantes. Alors, je dis, ça ne représente pas une croissance à deux chiffres, hein, par an, mais ça représente quand même une croissance assez forte. La question, c'est que l'État, aujourd'hui, il prend à peu près 75% en charge, donc à peu près un peu plus d'un pour cent du PIB. L'État, il ne va pas être capable de passer à 2% du PIB. Compte tenu actuellement des capacités de financement de l'État, hein, on a la dépense publique une des plus élevées d'Europe, il y a une capacité limitée. Donc, qui dit capacité limitée, c'est si on a doublement, bah, comment on va financer ce doublement? C'est-à-dire qu'on va peut-être passer de 20-75% de prise en charge publique à 50%. Donc, forcément, il y a plusieurs aspects. Alors, l'aspect social, c'est quelle politique redistributive on peut avoir par le financement. Donc, aujourd'hui, on a l'APA. L'APA, c'est régressif. C'est-à-dire que plus on a revenu élevé, moins on a une prise en charge du plan d'accompagnement de la personne âgée dépendante qui va être élevée. Mais forcément, ça signifie qu'il y a des révisions à la baisse. Il va falloir le dire aux personnes, qu'ils anticipent que la prise en charge qu'on a aujourd'hui, dans 10-20 ans, elle n'aura pas lieu. Elle n'aura pas lieu, donc ça signifie qu'il va falloir l'assumer par soi-même. Alors, soit ça peut passer par une démarche purement volontaire, c'est-à-dire je vais adhérer à des assurances privées. Ça peut passer par un cadre professionnel, c'est-à-dire voilà, des accords d'entreprise où, en adhérant à des mutuelles, on va introduire un caractère obligatoire pour ses salariés de cotiser. Mais ça peut aussi passer par des injonctions plus fortes de l'État en disant on vous oblige à consacrer 20 € par mois pour alimenter un fonds dès votre plus jeune âge qui va servir, bah, le jour où vous êtes indépendant, ça vous a donné 500-600 € de plus par mois qui viendra compléter une aide publique. Voilà. Et si on parle de marchés qui sont quand même en croissance, puisque quelque part dans le texte qui accompagnait le titre de cette session, il y avait une vision un petit peu déçue que cette phase de croissance tant attendue de la silver economy, on ne l'aurait pas observée. Il faut voir que dans le domaine de l'assurance dépendance, eh bien, sur les 3-4 dernières années, on a une croissance de 4%. Donc, c'est-à-dire qu'on est quand même sur des niveaux... alors certes, on part de bas, mais c'est-à-dire qu'il y a un vrai potentiel. Et juste pour terminer, je voudrais dire qu'on parle beaucoup à domicile ou en institution. Une des raisons pour laquelle le domicile, ça coûte pas cher, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a un engagement des familles extrêmement fort. Qu'est-ce qu'il en sera demain? Je parlais que le financement de la dépendance, c'est 1,5% du PIB. Si on transforme le temps des familles bénévoles, si on devait le payer, eh bien ça représente l'équivalent. C'est-à-dire qu'il y a une face cachée du financement de la dépendance, c'est tout l'engagement des familles, et qui est parfois un vrai sacrifice, notamment lorsqu'on a un conjoint ou une conjointe âgée qui doit s'occuper de son mari ou de sa femme âgée. Et là, le coût social est extrêmement fort, mais il n'est pas comptabilisé, il ne coûte rien en apparence à la collectivité, et c'est un vrai problème. Voilà.
Sébastien Poitvin, est-ce que c'est une façon de mettre la poussière sur le tapis, sous le tapis, de faire porter sur les familles la charge de vieillissement, ou est-ce que c'est juste dans l'ordre normal des solidarités?
Je ne dirais pas que c'est une manière de mettre la poussière sur le tapis, parce que, je le disais tout à l'heure, la France n'a pas forcément un regard sur le vieillissement. Voilà. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas des réflexions qui sont engagées. La difficulté, c'est que celles et ceux qui ont engagé ces réflexions ne veulent surtout pas que ça arrive aujourd'hui sur la place publique pour éviter effectivement un phénomène de pression. Mais je prends toujours un exemple très très simple, c'est qu'il y a des réflexions culturelles très intéressantes à mener. En 2003, lors de la fameuse canicule, on avait constaté des différences extrêmement importantes, vous savez que les chiffres sont parfois terribles, par rapport au nombre de décès. Notamment que dans le sud de la France, il y avait moins de décès que dans des régions comme Paris. Et pas simplement parce que les personnes âgées avaient l'habitude des grosses chaleurs, mais surtout parce qu'il y avait des mécanismes familiaux, des mécanismes sociaux qui étaient très différents. Et c'est pour ça que c'est pas simplement une question de mettre sous le tapis, c'est qu'il va y avoir des mécanismes culturels qui vont être très différents. J'étais en Alsace hier, et en Alsace, la personne âgée, elle est choyée. Il va y avoir des vraies réflexions culturelles à mener. Et moi, je le disais tout à l'heure, on est au début d'une mutation importante. On va avoir une partie de l'emploi qui va disparaître. Ça veut donc dire que peut-être que les questions d'aide à la personne et d'aidant vont devenir importantes. Peut-être qu'on va rémunérer ce qui aujourd'hui ne l'est pas. Peut-être que ça va devenir un complément de revenu. Bref, on est aujourd'hui au début d'une réflexion globale qui va mélanger les aspects culturels. Dans telle ou telle partie de la France, on va avoir tendance à faire de telle manière. Les aspects budgétaires, oui. La puissance publique va devoir à un moment ou à un autre penser à ceux qui ne sont pas solvables, on va dire le mot. Voilà. La question technologique qui va permettre, d'une manière générale, de baisser de toute façon le coût du service, etc. etc. On est au début d'un panel de réflexion extrêmement large.
Pascal Brunet, c'est justement à vous que je voulais donner la parole. Vous êtes un cluster. Vous n'êtes pas un think tank, vous avez bien insisté là-dessus, vous êtes un do tank. Et votre travail, c'est de mettre en relation tous les acteurs de cette économie potentielle, des grandes entreprises, des start-up, des financeurs, des associations, pour que tout le monde arrive à trouver des solutions un peu intelligentes à ces questions-là. On est au début des réflexions. Comment ça se passe chez vous?
Ça se passe très très bien. Ça se passe très très bien, et notre objectif, effectivement, en mettant tous ces talents en commun, quand je parle de tous ces talents, peut-être préciser que chez Silver Valley, nous avons 4 collèges d'adhérents principaux. Nous avons le collège des entreprises, avec une très grande hétérogénéité dans la taille des entreprises, on l'a évoqué tout à l'heure. On a le collège universitaire, on a le collège des sachants, C'est un collège auquel adhère l'école centrale, l'école centrale Supélec, l'université Pierre et Marie Curie, Sciences Po, et tout un ensemble d'universités, tout un ensemble d'écoles de commerce, tout un ensemble d'écoles de design. Ça, c'est le second collège. Le troisième collège, c'est un collège qui est constitué de financeurs qui interviennent soit en capital, soit en dette dans les entreprises qui sont adhérentes et qui souhaitent lever des fonds. Et enfin, le quatrième principal collège est le collège des utilisateurs. Donc, c'est des représentants, c'est des associations de retraités, c'est des opérateurs de maisons de retraite, c'est des opérateurs de résidence autonomie. Donc, tous ces gens communiquent les uns avec les autres et créent de la fertilisation croisée de par leur expérience au travers d'un certain nombre de moments qu'on organise tout au long de l'année. Je voudrais revenir un instant sur ce que vous avez dit par rapport effectivement à cette part du PIB que représente la prise en charge de la dépendance. Nous, au travers de la fertilisation croisée dont je viens de parler, notre objectif, c'est de créer de la richesse, c'est de créer des emplois. Avec une vocation qui est une vocation territoriale. On a la reconnaissance du ventre. Nos financements sont des financements qui proviennent à 50% des collectivités régionales et locales, notamment de la région Île-de-France. Donc notre objectif est de créer des emplois en Île-de-France, de créer de la richesse. Qui dit emploi dit richesse, qui dit emploi et richesse dit PIB, et qui dit PIB, et c'est là où je voulais revenir sur ce que vous voulez dire, dans votre analyse, il y a une donnée que vous n'avez pas intégrée, c'est la variabilité du PIB. Si on arrive à créer un cercle vertueux au travers d'une dynamique telle que celle qui existe chez nous, mais il en existe ailleurs, une dynamique vertueuse de création de richesses et d'emplois, on va augmenter l'assiette du PIB. Et les 1,5 d'aujourd'hui se transformeront peut-être en 0,9 dans 20 ans, même si le nombre de gens qui en bénéficieront va doubler ou tripler, parce qu'on aura réussi à créer une filière d'excellence dans la silver economy, excellence en France, mais aussi excellence à l'étranger. On est en permanence sollicité par le Canada, par la Chine, par la Suisse, par tout un ensemble de pays qui disent « mais ce que vous faites chez Silver Valley, on voudrait le dupliquer chez nous parce que vous avez en France une expertise dans ces domaines-là, etc. etc. » Donc voilà, pour revenir sur ce que vous disiez, les 1,5, oui, mais il y a une variable qui est importante, c'est le volume lui-même du PIB.
Que peut la technologie dans le règlement de ces questions ?
Elle peut permettre à un senior, comme on le disait tout à l'heure, de rester plus longtemps chez lui parce qu'il va y avoir des objets connectés qui vont permettre de détecter le moindre incident de vie. Il va y avoir un compteur électrique intelligent qui va prendre l'empreinte électrique de la bouilloire qui habituellement s'allume à 8h du matin ou de la porte du frigo qui s'ouvre à 8h20. Il y a tout un ensemble de choses qui vont permettre de créer de la sécurité de l'individu, la sécurité des personnes et aussi la sécurité de son environnement. Sécurité aussi et facilité d'utilisation de l'habitat. On connaît tous maintenant, c'est devenu assez courant, les aspirateurs automatiques. C'est vrai que quand une aide ménagère peut passer 2 heures à s'occuper de la personne fragilisée plutôt que de passer l'aspirateur, ça me semble plus, il y a une plus grande valeur ajoutée à s'occuper de la personne âgée elle-même plutôt que d'être dans le salon ou dans tout l'appartement. Enfin, c'est un exemple idiot, mais une multitude de technologies va nous permettre de... Et
l'air de rien, il faut quand même passer l'aspirateur.
Oui, mais si c'est un robot qui passe, si c'est un robot qui aspire tout seul, vous pensez que les aides ménagères préfèrent passer l'aspirateur ou s'occuper des personnes âgées ? Non, mais vous les connaissez mieux que moi. Mais...
Je les connais très bien.
Donc dites-moi.
Non, mais effectivement, elles aiment passer du temps avec la personne âgée, mais évidemment, elles n'ont pas envie de les laisser dans un environnement qui ne soit pas propre et sain. Mais évidemment, si elles peuvent passer un peu plus de temps à prendre le petit café avec les petits biscuits le matin avec la personne âgée, voilà, parce qu'on ne remplacera jamais le lien social humain.
Et la technologie doit permettre de développer le lien. Elle ne m'écoute pas. La technologie doit permettre...
Mais si, parce que je suis une femme du lien.
La technologie doit permettre de développer le lien, justement, et non pas de remplacer. C'est ça qui est toute une... Et dernière chose sur la technologie, c'est la relation avec l'aidant. que ce soit notamment les dents familiales. Alors, il y a des chiffres qui disent qu'il y a, une, il y a 400 ou 500 kilomètres entre les dents familiales et son aidé. Là aussi, la technologie permet de faire des choses merveilleuses. Ouais.
Olivier Vallée, chez Legrand, vous bénéficiez aussi de cette fertilisation croisée dont parlait Pascal Brunelet, ou le dynamisme des startups françaises qui n'est plus à démontrer. Legrand, c'est un grand groupe, les décisions sont un peu lentes, ça vous booste un peu ? Non, mais c'est vrai. Enfin,
je ne vous permets pas. Non, mais c'est vrai. Là, c'est,
ah.
C'est, non, c'est, on a un peu préparé.
Je n'avais rien demandé.
Effectivement, nous, il y a un temps de décision dans les groupes qui n'est pas du tout le même que celui d'une start-up. Parce qu'on ne part pas sur la même chose. Nous, on ne part pas d'une idée. On part d'un marché. Et tant qu'on n'a pas la certitude qu'il y a un marché, on ne développe pas. Voilà. Donc nous, notre recherche-développement, elle travaille en aval d'une étude qui détermine que ça vaut le coup d'investir dans du développement parce qu'on a identifié un marché. La start-up, elle part d'une idée. Et à partir de l'idée, une fois qu'elle l'a concrétisée, elle cherche s'il y a un marché. Donc c'est là où on est complémentaires. C'est aussi pour moi un problème aujourd'hui sur l'accompagnement des start-up en France et de l'innovation. Je pense qu'on les aide beaucoup à créer, mais on ne leur demande pas suffisamment de se pencher
sur les réels besoins.
Voilà. Et s'il y en a autant qui disparaissent, hélas, c'est que souvent, elles sont parties d'une idée, puis on s'est aperçu à un moment qu'il n'y avait pas de clients pour acheter ce produit-là, ou que si on le fabriquait comme ça, il allait coûter deux fois trop cher, etc. Et c'est là où, finalement, on va mutuellement s'aider. Nous, on travaille beaucoup avec des start-up parce qu'elles nous font aller plus vite sur de la recherche-développement, mais on les calme un peu aussi, parfois, sur l'obligation qu'on va mettre, nous, pour les accompagner, pour qu'on ait vraiment au bout un client et un marché. Voilà, donc c'est là où c'est complémentaire. Ils nous font gagner du temps, et nous, on leur permet de se poser les bonnes questions pour qu'au-delà de la R&D, ils puissent avoir derrière des clients et un marché.
Sébastien Potvin, voilà. Je vous voyais hocher la tête. Vous étiez tout à fait d'accord.
Non, mais c'est dans une économie de l'innovation, il y a du défi. Il faut accepter ce risque-là. Mais ce que disait Olivier est juste. Pour faire en sorte que sorte de toutes ces propositions quelque chose qui demain va pouvoir devenir une vraie solution, il faut que des grands distributeurs, des personnes qui connaissent parfaitement le marché, puissent s'associer à un moment ou à un autre à ces jeunes start-up et leur dire voilà, excellente idée, on peut passer de la bonne idée à une concrétisation, à une distribution. Mais il y a ce risque, et effectivement il existe, il faut l'accepter, mais plus on fera en sorte que les start-up seront en lien avec des grands groupes, peut-être plus on limitera ce risque, même s'il ne disparaîtra jamais.
Finalement, on en revient toujours à la même idée. Si toutes les composantes de la société ne se mettent pas à collaborer un peu pour faire avancer le débat, ça ne risque pas de marcher.
Si les choses sont assez simples. La silver economy, quand on parle de la filière de la silver economy, on parle d'un public qui est difficile à borner, comme on vient de le voir tout au long de cette rencontre. Les autres filières fonctionnent sur un produit. C'est simple. Nous, il faut qu'on arrive à comprendre les évolutions de ce public, les besoins de ce public, mettre l'ensemble des acteurs de l'écosystème autour de la table, faire en sorte qu'on dépasse des différences culturelles, des différences d'analyse, des différences de stratégie, d'agenda, et qu'on arrive ensemble à se dire qu'est-ce que l'on peut proposer. C'est ça la difficulté. C'est notre boulot à France Silver Echo, donc on est ravis de le faire, mais c'est un élément extrêmement complexe à mettre en œuvre.
Je vais faire un dernier tour de table avec une question simple. Qu'est-ce que chacun de vous attend du gouvernement actuel ? En deux mots, allez-y.
On va commencer par les experts de l'OECD.
Ou en tout cas, quels sont les points cruciaux à ne pas rater le virage de la silver economy ?
Moi, je souhaitais apporter un point complémentaire par rapport à ce qui a été dit aussi. C'est le rapport aussi, en fait, au produit de la silver economy et le lien aussi à la santé. C'est-à-dire que dans le domaine de la consommation classique, voilà, la souveraineté du consommateur, c'est ce qui détermine le mode de fonctionnement du marché. Dans le domaine de la silver economy, on peut faire aussi avoir des consommateurs dont la capacité décisionnelle est altérée et finalement la relation entre finalement un client et un commerçant, on va plutôt passer peut-être à une logique de patient qui va accéder à un bien ou un service
Et donc ce qui va nécessiter aussi un autre mode d'attribution qui va passer par la prescription. Voilà. Ce qui fait que dans le domaine de la cybercriminalité, il y a aussi toutes ces dimensions sanitaires, santé, qui est déterminante. Et on voit dans la prise en charge de l'APA, et bien le plan d'accompagnement, il passe aussi par une logique de prescription et de validation par les autorités publiques. Voilà. C'est un point complémentaire.
Pascal Brunelet, sur quoi est-ce qu'on doit absolument mettre l'accent en termes politiques ?
C'est une question compliquée, mais puis vous l'aviez pas préparé celle-là, je l'avais pas préparé.
C'est des surprises un peu.
Je dirais une chose, le décloisonnement des financements du système de santé, qu'on n'ait plus la médecine de ville, l'hospitalière, le médico-social, etc., etc. Parce que ça empêche d'avoir une vue globale de la problématique et là une vue globale du parcours de soins. Et on en est arrivé à des aberrations où, dans un environnement médico-social, on a des solutions qui peuvent faire économiser de l'argent au monde hospitalier, mais c'est tellement étanche voilà, on marche un peu sur la tête. On aurait pu penser qu'avec la création des grandes régions ARS, avec un DG ARS qui a une vision globale des choses, on aurait pu penser que ce décloisonnement se fasse, mais il est toujours existant et c'est dommage. Donc voilà, décloisonner les financements du système de santé.
C'est une bonne piste. Je vous aide un peu, hein, Sébastien Poitvin, pour la feuille de route. Anne Gauthier.
Eh bien, je pense qu'il faut absolument développer, garder des moyens pour la prévention, puisque c'est quand même la meilleure économie quand on fait de la prévention. C'est préserver le capital santé, et je pense que c'est, alors, par quels moyens ? Eh bien, ceux qui vont réfléchir et qui vont coucher quelque chose sur une feuille, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait dans la piste au moins cette réflexion de la préservation de la santé et que tous les éléments de prévention qui peuvent aider à maintenir le capital santé sont forcément une marge d'économie pour la nation entière.
Olivier Vallée, vous qui incarnez le monde de l'entreprise, la grande entreprise, selon...
ce qu'on attend, c'est une vision positive du sujet des politiques, c'est-à-dire que c'était un peu la genèse de la silver economy, hein. C'était de dire, je crois qu'on l'a abordé déjà, il faut le voir comme quelque chose de positif et pas comme un problème sociétal qui va nous coûter beaucoup d'argent et qui va nous poser beaucoup de problèmes. Ok, il y a le problème, mais est-ce qu'on peut pas lui donner cette vision positive ? Ça, je pense qu'il faut y revenir parce que quand même, le sujet, on l'a pas trop entendu dans les dernières échéances électorales. C'est quand même un sujet qui va être sociétal et majeur pour notre société, et je n'ai pas eu l'impression qu'on le remonte souvent au-dessus de la pile. Donc ça, c'est la première chose, et sûrement parce que les politiques le voient comme un sujet qui n'est pas très positif. Voilà, donc déjà, ce regard positif, après, évidemment, le décloisonnement des financements, oui. Parce que si chacun reste dans son silo et si celui qui paye la prévention n'en sera pas le bénéficiaire, il faut qu'à un moment, il se parle et qu'on puisse décloisonner tout ça.
Sébastien Poitvin, je vous laisse le mot de la fin.
Il n'y a pas de mot de la fin, parce qu'en fait, le mot de la fin a déjà été prononcé par les précédents intervenants. On est effectivement là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut d'abord comprendre qu'on est face à de nouvelles opportunités. Mmh. Voilà. Pas simplement économiques, mais de nouvelles opportunités économiques, de nouvelles opportunités sociétales, de nouvelles opportunités sociales. Soit on prendra la question des seniors dans la société sous cet angle-là et on pourra effectivement avancer, soit on ne le fera pas et ça va être effectivement un poids qu'on va se traîner pendant très longtemps. Et moi, mon rêve, même si ça fait peu de temps que je suis là, c'est que dans quelques temps, ça soit un senior qui soit directeur général de France Silver Eco et que ça paraisse très normal.
Fait que tu restes quelques années. Hein.
Oui, mais au bout d'un moment, j'aurais plus d'innovation. Ça. Mais aujourd'hui, on a y compris besoin de voir. Parce que la meilleure des communications, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on voit. Et il faut qu'on voit apparaître des seniors parce qu'ils sont extrêmement importants. Pour terminer, je prends toujours l'exemple des associations. Vous croisez une présidente ou un président d'association qui va vous dire: J'ai pas de bénévole. Et vous avez des personnes qui sont retraitées, qui n'attendent que cela. Pourquoi ? On n'arrive pas à mettre en place. Il faut qu'on mette en avant ça, une nouvelle opportunité. Donc, comme ça a été dit avant, positiver sur ce sujet-là.
Je vous remercie tous, c'était extrêmement dense. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter le podcast sur le site du salon. Vous avez, je l'espère, tweeté, je l'espère, vous avez alimenté la page Facebook. Je vous rappelle également que demain mercredi, entre 14h15 et 15h45, dans cette même salle, la Silver Economy fera pitcher 5 finalistes. Et puis que la conférence de clôture s'appellera « Qui s'occupera de maman demain ?» Elle aura lieu entre 17h et 18h dans cette même salle. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci.